Bonjour, vous êtes bien sur Radio Saint-Ferréol 94.2. Voici un épisode du podcast Un déjeuner chez Bernard qui parle du nucléaire et de son monde. Comme en Drôme, nous sommes proches des installations de Cruas-Metz en Ardèche et Tricastin dans la Drôme, il nous semblait important d'aborder ces questions du nucléaire à l'antenne. Vous retrouverez un épisode tous les 4e mercredi du mois à midi. Le reste des épisodes se trouve en ligne sur les plateformes de podcast. Bonne écoute. Nous voici donc pour un nouvel épisode d'Un déjeuner chez Bernard. Aujourd'hui, c'est casse-croûte et EPR. Je crois qu'on va recommencer au début de l'histoire et faire un peu d'histoire sur cette EPR. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire EPR ?
Pour comprendre ce que ça veut dire, il faut savoir comment cette affaire a commencé. La France avait déjà développé des réacteurs à uranium enrichi et au ordinaire sous pression, sous licence Westinghouse, à partir des années 73-74. Et les Allemands, de leur côté, avaient aussi développé des réacteurs de même type, de même filière. Au début des années 80, la fin des années 80 plutôt, dans le cadre des discussions politiques entre Mitterrand et Kohl, l'alliance entre la France et l'Allemagne, etc., il y a eu l'idée de lancer un projet commun de réacteur qui serait fait à partir du meilleur réacteur français de l'époque, ou disons le dernier né, qui s'appelait le réacteur N4, et le meilleur réacteur allemand, le Convoy. Entre donc la firme française Framatome, qui va faire partie d'Areva en 2001, et la firme Siemens. Et ce réacteur devait être plus puissant que les derniers de chaque pays, et il devait arriver à 1600 mégawatts, au lieu de 1450 en France pour le dernier. Donc un grand projet qu'on aurait pu dire franco-allemand ou germano-français, mais pour lui donner quand même une certaine aura internationale, on l'a appelé le projet européen. EPR veut dire... Alors c'est marrant parce que c'était entre France et Allemagne et on a pris un nom anglais. European Pressurized Reactor. Réacteur à eau sous pression européen. Bon, donc c'est resté pendant un certain temps. D'ailleurs, tout le monde disait EPR. La plupart des gens ne savaient pas ce que ça voulait dire, mais c'est pas grave. Il se trouve qu'en 1904, donc le projet a été donc monté sur papier dans les années 90. Et on est arrivé à un projet vers 1999 qui était à peu près prêt sur le papier. En 1998, l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire. Et donc, ils ont commencé à pas trop s'intéresser à la question et au projet EPR. Mais en fait, ça a pris assez longtemps et le Siemens n'a quitté définitivement le projet EPR qu'en 2019. On verra d'ailleurs pourquoi. Et donc, au début des années 2000, il y a une pression des milieux nucléaires très forte, en particulier en France. Je me souviens très bien, puisque j'étais à ce moment-là au cabinet de Dominique Voynet, qui avait une offensive énorme pour décider la construction d'un EPR, à laquelle elle s'est opposée, et le Premier ministre Jospin a suivi l'avis de Dominique Voynet, donc on n'a pas lancé la construction de l'EPR à cette époque. Mais, comme on sait, le gouvernement a changé, c'est donc M. Sarkozy qui est devenu président de la République, et donc il y a eu des décisions positives en faveur de l'EPR, avec le premier acte, curieusement, étant d'ailleurs l'achat d'un EPR, donc à Areva, par la Finlande, en 2004. Et c'est très étonnant parce que ce réacteur n'existait pas, il n'existait que sur le papier, et donc en général, quand un pays développe un modèle de réacteur, commence à construire le premier exemplaire chez lui, et puis après, en fonction de la réussite de ce projet, il le vend à l'étranger. Là, on vend à la Finlande. Alors pourquoi la Finlande a acheté ça ? Eh bien, parce que ce fameux réacteur EPR était présenté paré de toutes les vertus. Non seulement il avait une puissance plus importante à 1600 mégawatts de puissance électrique. Ensuite, du point de vue de la sûreté, il y avait plus de protection que par rapport au précédent, c'est-à-dire un peu un ajout des protections françaises et des protections allemandes, parce qu'il y avait, par exemple, la double enceinte en Allemagne. Enfin, ils ont fait un compromis, pas un compromis, ils ont additionné pratiquement les propriétés des deux, et arrivé à le vendre à 3 milliards d'euros, même 2,7, je crois, au début. Enfin, il y a un truc absolument extraordinaire en coût, même par rapport au précédent qui fonctionnait depuis un certain temps, et avec une durée de construction de 5 ans. Et c'était clé en main, c'est-à-dire Areva vendait ce réacteur, mais était payé 3 milliards, terminé. C'est le prix fixe. Et on verra ce qui se passera par la suite. Et la décision a été prise, il y a eu un débat homérique, un débat public, très public et très conflictuel. Et de toute façon, la décision a été prise par le président, par Sarkozy, puis confirmée par le Parlement avant la fin du débat. Donc voilà, côté démocratie, c'était formidable. Et la construction du l'EPR français à Flamanville, sur le site de Flamanville, où il y a déjà deux réacteurs en fonctionnement, mais on a ajouté le Flamanville 3, qui serait l'EPR, qui était donc construit à partir de 2007 et devait démarrer en 2012.
T'arrêtes un petit peu parce que tu as dit beaucoup de choses. Le débat qu'il y a à l'Assemblée nationale, c'est sur la vente de l'EPR à la Finlande ou sur la fabrication de Flamanville 3, enfin de l'EPR en France ?
C'est sur Flamanville qui a décidé la construction en France de Flamanville. Alors, ce Flamanville, ce projet étant présenté dans le débat et aussi devant l'Assemblée nationale, paraît de toutes les vertus, donc 3 milliards d'euros, formidable, donc vraiment on ne comprend pas pourquoi on aurait refusé ce projet, et une durée prévue de construction de 57 mois, attention, hein. C'est pas 5 ans, hein, c'est 57 mois, ce qui veut dire 4,8 ans. Moi, j'ai jamais compris qu'on n'ait pas dit 5 ans, par exemple, parce que quand même, on sait que les durées de construction, c'est pas extraordinaire. Le coût de l'investissement, en 2003, c'était présenté 2 milliards d'euros. En 2005, ça passait quand même à 3,3 milliards d'euros. Bon, c'était très peu cher, et comme la puissance était plus importante, on arrivait à un coût du mégawattheure de 43 euros de l'époque par mégawattheure, donc c'était formidable, si vous voulez. Alors nous, on s'est opposé à l'EPR à l'époque, Global Chance, avec Benjamin Dessus, Yves Marignac, etc., en disant que, bon, on ne croyait pas une seconde qu'on puisse faire dans des conditions aussi rapides, et un réacteur qui était vraiment beaucoup plus important que les précédents, avec, on a critiqué, il y a des articles sur le site du Global Chance qui critiquent la technique de l'EPR, enfin, et aussi sur la question économique. On a dit, écoutez, c'est quand même un nouveau réacteur et plein de choses nouvelles, en plus franco-allemand, on ne peut pas croire du tout à cette histoire. Donc c'est intéressant de relire les articles de l'époque, y compris ceux qui expliquaient que c'était 3 milliards, 5 ans de travaux, etc. Alors...
Attends, je voudrais revenir juste sur un petit truc, parce que j'ai envie de dire presque bêtement. Moi, je pensais que l'EPR, c'était un nouveau réacteur, un nouveau type de réacteur, presque une nouvelle génération de réacteurs. Et en fait, c'est juste un réacteur plus gros. Si je comprends bien.
C'est la même filière, c'est-à-dire les réacteurs à uranium enrichi et eau sous pression, bon, les REP, ou les PWR en anglais. Mais dans cette filière PWR, on peut définir des générations, c'est-à-dire ceux des années, les réacteurs américains des années 60, c'était des réacteurs à peu près de 300 MW, 250-300 MW. Il y en a un à Chose dans les Ardennes qui est en train d'être démantelé. C'est ce qu'on peut appeler la première génération des réacteurs REP. Ensuite, la deuxième génération, on peut dire, c'est les réacteurs qui se sont succédés dans le programme français qui sont actuellement en fonctionnement. 900 MW, 1300 MW, 1450 MW, dans lequel la différence est essentiellement la puissance. Donc, deuxième génération. Troisième génération des réacteurs REP, c'est l'EPA. Même filière, même type de réacteur, mais avec des modifications importantes sur la sûreté, la double enceinte et en particulier le récupérateur de corium. C'est-à-dire que s'il y a un accident de fusion du cœur qui perce la cuve, pour empêcher qu'il perce la dalle de béton qui est en dessous, on fait un nouveau système où on étale le corium. C'est très compliqué, mais on peut considérer qu'au moins en théorie, c'est une amélioration. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé de troisième génération. Voilà, les trois générations. Mais c'est la même filière. Et en particulier, cette filière, depuis le début et toujours, ne prévoit pas dans sa conception l'accident grave. Parce qu'au début, ils estimaient que, donc c'est les Américains dans les années 60, et puis dans les années 70, ils estimaient que la probabilité de fusion du cœur était tellement faible qu'on pouvait considérer que c'était zéro. Et donc, ces réacteurs, s'il y a perte de refroidissement, on a l'accident grave. Et si ça continue, l'accident majeur. Et on a eu l'accident grave à Tima Island, et l'accident majeur sur un réacteur de presque de même type à uranium enrichi à eau, mais à eau bouillante, à Fukushima. Et donc, ces réacteurs, intrinsèquement, ils présentent certains risques. L'apport de l'EPR, c'est de dire, OK, on ne peut pas forcément... Si on perd le refroidissement, on a fusion du cœur, mais même si la fusion du cœur perce la cuve, avec le récupérateur de corium, on doit s'en tirer. Alors, tout ça est discutable, mais c'était ça la doctrine. Mais il y a quand même ce défaut de tous ces réacteurs, c'est l'histoire qu'on n'a pas de parade à l'accident grave. Si on perd le refroidissement, c'est fichu. Ce qui est quand même un défaut de toute cette filière. Et on aurait pu d'ailleurs, à l'époque, je veux dire au tournant des années 2000, prendre la décision d'imaginer ou d'essayer de développer des réacteurs qui serait intrinsèquement sûr, c'est-à-dire que s'il y a un truc comme perte d'électricité, perte d'eau, ben le réacteur s'arrête et puis la chose s'arrête. C'est-à-dire trouver un système qu'on peut appeler de sûreté passive. Mais enfin, c'est un peu compliqué. Restons sur l'EPR.
Ouais.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ça, pour rester sur le nom du réacteur? C'est que les Allemands sont partis. Finalement, je l'ai dit, Siemens, en 2009, il a quitté complètement. Et donc, c'était un peu embêtant de continuer à dire que l'EPR était European Pressurized Reactor, puisque c'était un French. Alors, plutôt que de dire que ça devenait un FPR, on a dit, ah ben non, c'est un réacteur qui est de la même famille que les précédents, mais avec une meilleure sûreté, et on appelle ça la sûreté, un modèle évolutionnaire.
Waouh!
Il faut être génial quand même.
C'est poétique.
Évolutionnaire, c'est la théorie de la sûreté évolutionnaire. Au lieu de changer de modèle de réacteur, on améliore chaque fois. Et donc, l'EPR, c'est l'amélioration des précédents. Il est donc évolutionnaire. Quand même quelqu'un qui a dû être payé très cher pour trouver ça, parce que c'est très malin. Donc, le E, c'est évolutionnaire.
Waouh!
Le P, c'est power. Réacteur.
Magnifique.
Alors, évolutionnaire, évolutionnari.
Et oui.
Évolutionnari Power Reactor. Vendu par Areva, donc, en fait, bon, filière française. Et avant même que la France décide de construire un EPR, donc, la Finlande a acheté cet EPR. À 3 milliards, pareil. Construction. 5 ans, là, peut-être ils ont dit 5 ans. Démarrage des travaux en 2004 et qui devait donc démarrer en 2009.
Et oui.
Eh ben, il n'a toujours pas démarré. Nous sommes en 2021 Et les Finlandais ont été furieux parce que tout merdé, ils ont demandé des modifications qui n'ont été pas faites, mal faites, etc. Enfin, ça s'est très mal passé. Et ça continue à mal se passer parce qu'ils découvrent encore des trucs qui ne collent pas. Alors, dernièrement, il y a eu encore, je ne sais pas quoi, une histoire de soupape ou je ne sais pas quoi. Donc, le Finlandais n'a pas démarré. Le Français n'a pas démarré depuis cette époque. Il est toujours... On pense qu'il démarrera 2022-2023, c'est pas sûr. Par contre, on a vendu deux EPR en Chine, deux, qui ont démarré leur construction, je pense, vers 2007, ouais, probablement, qui ont été construits beaucoup plus rapidement que les Français ou Finlandais, qui ont démarré. Le premier a démarré en 2019, je crois. Donc, pas mal, quoi, ou 2018, enfin, il a démarré, il a marché à pleine puissance. C'est lui qui a produit, c'est le réacteur au monde qui a produit le plus d'électricité en une année. Alors, tu me diras, la puissance est très élevée, mais enfin, il a quand même bien fonctionné. Et le second, je n'ai pas de nouvelles, mais je pense qu'il a démarré aussi, mais je ne sais pas s'il a beaucoup produit. Il a démarré il y a un an, je pense. Donc, en Chine, ça s'est bien passé. Alors, pourquoi ? Je pense que la question suivante, c'est de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un réacteur qui devait coûter 3 milliards et être démarré en France au bout de 4,8 ans, en est maintenant à peu près à 20 ans, quoi, enfin, ou presque. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est presque incompréhensible. On peut comprendre que ça prenne un peu plus de temps. On peut aussi comprendre que ça soit un peu plus cher. Mais du point de vue du coût de l'opération, après les dernières estimations de la Cour des comptes, c'est passé de 3 milliards à 19 milliards. Ce qui est quand même absolument extraordinaire. 19 milliards. Et ce n'est pas fini, puisque 2022-2023. C'est assez étonnant, parce que ce qu'il faut reconnaître, c'est que EDF avait réussi à construire dans les années 70 jusqu'à 6 réacteurs par an de lancement. Donc il y avait des années où il y avait 20 chantiers en cours. Et ils ont réussi ça. Chapeau. Et bien c'était à partir de là, ça s'est dégradé et on est arrivé à l'EPR, dans lequel, d'accord, c'était peut-être un peu plus compliqué, puisqu'il y avait plus de choses à faire, mais ils auraient pu le dire depuis le début, en disant, écoutez, bon, c'est comme les autres, mais quand même avec beaucoup de changements, la double enceinte, le corium, etc. Donc, bon, on estime, je ne sais pas moi, à 10 ans, par exemple. 4,8 ans. Donc, dès le début, ça a été assez comique, pour ne pas être... Bon, c'est que... Enfin, il n'y a qu'à lire ce qu'on écrivait à l'époque, mais en disant, mais c'est pas possible, ça ne tient pas la mer, etc. Alors.
Ouais, ça serait comique s'il n'y avait pas tout cet argent.
Et le risque, parce que ce réacteur, déjà on peut faire des remarques sur la conception, le fait qu'on a voulu faire trop gros, que les systèmes sont très complexes, que soi-disant les systèmes doivent répondre à tout, mais leur complexité fait que cette complexité même peut être un défaut du point de vue de la sûreté. Donc il y a des critiques sur le PR. Mais en plus, il y a eu des retards et des tas de trucs qui fait qu'il y a des équipements à l'intérieur qui ne sont pas de bonne qualité, et on le sait. Et donc il y a aussi un risque du point de vue de la sûreté, parce que les choses ont été mal faites. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé tout ce qu'on puisse imaginer. Et le pire, parce que inattendu, c'est le coulage du béton de la dalle. Une dalle en béton qui a été faite sur plein de réacteurs, qui est faite d'ailleurs sur d'autres installations industrielles. Très vite, on s'est aperçu que ça ne marchait pas, qu'il y avait des trous. Et l'ASN a été amené à arrêter le chantier, en disant, les mecs, arrêtez, proposez-moi une façon de faire qui marche. Et cette histoire de béton a duré 3 ans. Pendant 3 ans, il a fallu faire, défaire, arrêter, recommencer. Et donc, voilà, sur les 4,8 ans du total, on a passé 3 ans, au moins, à s'assurer que le béton était, que le béton, finalement, était convenable.
Ce truc de dalle en béton, là, ce que tu m'expliques, c'est que, grosso modo, c'est quelque chose qu'on a su faire, qu'on sait faire.
Oui.
Mais c'est quoi, c'est une perte de savoir-faire du bétonneur. D'abord, c'est qui le bétonneur de l'EPR? C'est Bouygues.
Mais si tu veux, toute cette histoire, c'est aussi d'une part le fait que EDF a mal organisé son chantier, l'a mal contrôlé, etc. Mais pratiquement tout, c'est des entreprises extérieures. C'est pas EDF qui fait le béton, c'est pas EDF qui fait l'acier, c'est pas EDF qui fait même les soudures. C'est des gens, EDF paye des gens pour faire ça. Et donc ça a merdé, l'organisation a merdé, les contrôles qualité ont merdé, celui qui est chargé du béton, il a mal fait son béton, probablement parce que je ne sais pas combien il y avait de nationalités sur un chantier comme EPR. Les mecs ne comprenaient même pas forcément les ordres qu'on leur donnait. Donc ça, c'est un défaut qui a été dénoncé à la fois pour le rapport dont j'ai parlé par la Cour des comptes, c'est que ça a été le bordel total et qu'il n'y avait même pas un chef de projet. Il a fallu des années pour qu'EDF désigne un chef de projet.
Pas mal.
Non, mais c'est vraiment la saga de l'EPR. Il faut apprendre ça dans les écoles pour que les gens comprennent ce qu'il ne faut pas faire. Et donc les bétons, 3 ou 4 ans. Bon, après... Le 22 octobre 2019, les trois autorités de sûreté nucléaire de Finlande, de France et du Royaume-Uni, Royaume-Uni parce qu'on pensait déjà à construire un EPR en Angleterre, rendent publique une déclaration concernant la sûreté du réacteur EPR. Deux points. Le système de contrôle-commande prévu n'est pas acceptable. Contrôle-commande, c'est le cerveau du réacteur.
Tu m'as perdu là. J'ai entendu 2019 pour le communiqué des trois ASN.
2009.
Ok.
Non, 2009. Donc très tôt. Enfin, c'était presque le moment où on était prêt à démarrer, quoi. Bon, pas acceptable. Et la critique est claire. Elle porte sur il y a deux réseaux. Il y a le contrôle. Il y a un réseau de contrôle qui assure le fonctionnement du réacteur, comme dans un avion. Et puis tu as un système de contrôle du réacteur en situation anormale, c'est-à-dire si un truc déconne, on coupe et on passe sur l'autre qui doit fermer ceci, ouvrir cela, bon, c'est-à-dire un pilotage différent. Donc on voit bien que les deux doivent être indépendants. Les trois autorités considèrent que l'EPR ne satisfait pas à cette exigence d'indépendance entre les deux systèmes.
Et donc ça, c'est un problème de conception, pas de réalisation, quoi.
Non, il y a conception. Conception. Et conception des années après le début. Tout ça parce que c'est l'autorité de sûreté finlandaise qui s'en est aperçue.
Chez nous, c'était passé sous les radars.
C'était passé sous les radars et l'autorité de sûreté française a bien été obligée de co-signer. Il n'est pas impossible que si ça n'avait été qu'une affaire française, on n'en aurait jamais entendu parler. Ou en tout cas... Même si la correction avait été faite, il n'y aurait pas eu de la même publicité qu'une lettre des trois autorités. Mais enfin, n'anticipons pas. L'ASN acceptera, l'ASN française, de l'autorité française, acceptera le nouveau système de contrôle, commande, proposé par EDF en avril 2012. 3 ans. Alors, retard, évidemment. Contrôle, commande, panique à bord, etc. Le 22 octobre 2009, les autorités de sûreté nucléaire soulèvent le problème. En 2012, l'ASN accepte le nouveau système, bon, qui est installé à partir de là.
Bon, donc ça vient un petit peu épingler peut-être cette excellence française dont on parle si souvent dans le monde du nucléaire.
Mais cette histoire de PR est la risée générale sur l'excellence française. C'est-à-dire, au niveau international, c'est tout le monde sait causer ce désastre de l'EPR français.
Vous êtes bien sur 94.2, Radio Saint-Ferréol, et vous écoutez Un déjeuner chez Bernard. For earth, for what it's worth. Vous êtes bien sur 94.2 Radio Saint-Ferréol et vous écoutez Un déjeuner chez Bernard.
Alors après, il y a eu les problèmes de soudure. Dès le début, il y a des problèmes de soudure. Par exemple, il y a l'enceinte de confinement, c'est deux coques en béton. Mais à l'intérieur de la coque en béton, interne, il y a une paroi en acier. Il faut souder tout ça. Les soudures ont merdé, il a fallu les refaire, c'est pas possible. Donc déjà, dès le début, c'est-à-dire pour la paroi. Après, il y a eu ce qu'on appelle les consoles du pont polaire. Les consoles du pont polaire. Le pont polaire, donc, c'est un pont qui circule pour enlever les pièces, remonter le combustible, une espèce de système de grue qui circule, qui tourne. Donc, ça tourne et c'est donc, ça repose sur des équerres qui sont tout le long de l'enceinte de confinement, qu'on appelle des consoles. Il y a, je ne sais pas combien de consoles, peut-être 60, 100, enfin, un nombre important de consoles pour tenir cette espèce de plaque sur laquelle le pont circule. Alors, bon, on met les consoles, on soude, etc. Bon, tout va bien. Il se trouve qu'un peintre qui allait peindre les consoles, puisqu'elles sont peintes en jaune, je crois, par rapport... Enfin, elles sont peintes, c'est normal, c'est des pièces métalliques, on les peint. Il a aperçu une petite fissure. Il aurait pu mettre un peu de peinture et se taire. Bon, il se trouve que ce type s'est dit quand même une fissure, une centrale nucléaire, enfin c'est un peu embêtant. Il a signalé le problème. Probablement au mec d'EDF qui était là pour vérifier les travaux, enfin puisque lui il était entreprise extérieure, très certainement. Bon, donc il a dit, alors les mecs sont venus voir, là, merde, il y a une fissure, probablement ils ont découvert qu'il y en avait peut-être d'autres. Elles étaient toutes posées. Prête à être peinte. EDF a été obligé de tout enlever et de les remplacer toutes. À nouveau, un certain délai. Décision EDF de faire fabriquer à nouveau l'ensemble des consoles.
On dirait un sketch de quelqu'un qui refait sa salle de bain et qui se retrouve avec les portes au plafond, avec des fenêtres par terre. Avec, enfin, c'est une mauvaise histoire, en fait.
C'est une mauvaise histoire, mais... très inquiétante, parce que imagine que le peintre, il n'aurait pas vu son truc. Ben, ça veut dire qu'un jour, le support du pont polaire aurait cassé, probablement, à propos de n'importe quoi même. Et le pont polaire s'effondre, tu peux taper sur la cuve, puisque tout ça est au-dessus de la cuve du réacteur, et de l'endroit où il y a les combustibles. Donc c'est un scandale, bon. Alors après, on est...
Alors attends, parce que là, je vois que tu veux partir dans la longue litanie.
Oui, mais après, parce que ça n'arrête pas. Les soudures, par exemple, ça a duré jusque... Les soudures, le béton, ça a fini par se calmer. Les soudures, depuis le premier jour où ça s'est produit pour le truc en béton, ça a continué. Bon, avec les consoles en question. Et après, avec... Il y a les circuits, il y a le circuit primaire, puis il y a les circuits secondaires, c'est-à-dire la vapeur, l'eau qui va dans les générateurs de vapeur, puis après la vapeur qui va entre les générateurs de vapeur qui sont à l'intérieur de l'enceinte de confinement, et puis la turbine, bon, pour faire tourner, faire l'électricité. Bon. Donc ces circuits sont extrêmement complexes, ce n'est pas des trucs tout droit, des toc, 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 et donc il y a énormément de soudures. Bon. Et alors, énormément de soudures, eh bien, en 2000, ça doit être 2018, je ne sais pas, ce qu'on appelle une scandaleuse affaire. Une de plus. On s'est aperçu qu'il y avait des soudures qui n'étaient pas conformes. Une centaine de soudures sur tous ces trucs. C'est des soudures dont le gros problème, c'est d'avoir de bons soudeurs. Il y en a peut-être deux ou trois en France, pas plus. C'est très compliqué, parce que c'est des épaisseurs de 20 cm ou de 10 cm. C'est un travail absolument colossal et très précis et très précieux, etc. Donc, ils loupent les soudures et ils disent « oui, c'est pas grave, je sais pas quoi ». L'autorité de sûreté nucléaire commençait un peu à en avoir marre, quoi, d'accumulation de ces trucs. « Vous allez refaire toutes les soudures ». « Ah oui, mais il y en a 4 ?» Attends, ou 8 ? Je crois, qui sont entre les deux parois en béton de l'enceinte de confinement. Alors, EDF dit non, non, mais c'est pas grave, etc. Et là, l'autorité de sûreté dit il faut les refaire. Et on en est là, c'est-à-dire qu'en 2018, je crois, la SN a dit il faut les refaire. Parce que tous les experts avaient dit il faut les refaire. Là, il n'y a pas eu de discussion. EDF, mais non, il faut les refaire. non seulement les 100 extérieurs, mais les 8 trucs. Et alors, comment on fait? Alors, on peut détruire l'enceinte de confinement en béton et puis envoyer un mec pour ressouder. C'est EDF qui doit trouver une façon de faire. Là, l'IRSN doit examiner la qualité de ça. L'ASN doit approuver la méthode. Et après, il faut le faire. Et il faut le faire et s'assurer que c'est bon. Est-ce que les soudures qui ont été loupées par des mecs vont être réussies par un robot? Et donc le robot serait un robot qui rentrerait, je pense, entre les deux enceintes de confinement. Il irait sur la soudure. Et là, il y aurait probablement une caméra, je ne sais pas quoi, comme une opération, je ne sais combien. Et il irait refaire la soudure. Donc, bon. Alors, ils ont trouvé un robot aux États-Unis qui doit servir, je ne sais pas, peut-être dans l'industrie pétrolière, enfin, je ne sais pas où. Il y a un robot qui soit apparemment capable de faire ça. Tout ceci, donc l'ASN, je crois, a donné son accord sur le principe de la méthode, c'est-à-dire faire intervenir un robot. Maintenant, il faut que le robot arrive, que les essais soient faits avec ce robot et que l'opération elle-même soit faite avec ce robot. Du point de vue de cette histoire, on en est là.
Alors moi, il y a plusieurs choses...
Il y en a encore d'autres, hein.
Oui, j'imagine qu'il y en a encore d'autres.
Non, il y en a une autre scandaleuse, qu'on appelle une scandaleuse affaire, c'est que au fur et à mesure que les pièces sont prêtes, on les met dans le réacteur, on les pose. Et donc, on a vu rentrer la cuve du réacteur, et puis il a été déclaré, on ne sait pas trop comment, mais on a été su qu'en fait, le fond de cuve, qui était déjà soudé, hein, parce que la cuve était entière, présentait un acier dans lequel il y avait un taux de carbone trop important et qui donc présentait un risque en cas d'accident. Et également le couvercle de la cuve, qui avait donc été fabriqué à Crozon-Forge alors que le gros de la cuve était fabriqué au Japon, et qu'il y avait ces malfaçons, mais falsifiées, c'est-à-dire les certificats qui certifiaient la qualité de ces pièces étaient faux. Donc c'est quand même incroyable. Jamais dans toutes les littératures antinucléaires, il y a des gens qui ont dit qu'il y avait des gens qui allaient mettre dans les réacteurs des pièces dont quelqu'un savait qu'elles étaient défaillantes. Ça a été chargé. Et...
C'est-à-dire que ça a été installé.
Ça a été installé dans le réacteur. Et là, il y a eu une pression de tout le monde pour sortir de cette malédiction de l'EPR. Et finalement, et là je pense que c'est une faute grave, ça a été autorisé.
Par qui ? L'autorité de sûreté nucléaire a dit « Ok, on prend une pièce on sait qu'elle est mal faite. »
Mais il y a eu un décret... Normalement, ça aurait dû être arrêté. Mais il y a eu un décret signé par le gouvernement de Premier ministre, M. Valls, disant que dans le cas de difficulté, sans que ce soit très précisé, donc bon, on ne savait pas trop, l'industriel, Areva ou EDF, peut demander une dérogation. Et cette dérogation peut autoriser de mettre un truc qui n'est pas parfait. Et ce décret a été complété par un arrêté de décembre disant que cette tâche était confiée à l'ASN. Et ça, c'est pourri, parce que c'est une responsabilité politique qui a été prise, puisque l'ASN et tout le monde savaient que la pièce n'était pas bonne. Donc on sortait du domaine de la sûreté en l'acceptant. Alors quand même, ils l'ont accepté, parce qu'EDF a dit « Écoutez, moi, je ne peux pas la remplacer, parce qu'il faut 6 ans pour fabriquer un nouveau couvercle. »
Bon, on n'est plus à 6 ans près.
Et donc, l'ASN a dit, OK, vous pouvez démarrer avec ce couvercle, espérant comme tout le monde que ça allait démarrer. Mais il faudra le changer en 2024, c'est-à-dire au moment où on s'arrête pour le combustible.
Ah.
Je considère que là, il y a une faute. Il y a une faute
du politique.
Du politique et de l'ASN. Les SN, ils sont indépendants, ils n'étaient pas obligés, mais il y avait une telle pression. Et alors maintenant, en gros, tout va bien, parce qu'il est probable que EPR démarrera à peu près à cette époque-là, et du coup, on pourra changer le couvercle avant le démarrage. Coup de bol, coup de bol. Cette histoire de l'EPR Alors il y a eu d'autres choses, hein, je vais m'arrêter, mais des soupapes ou des vannes ou des... Alors chez les Finlandais, tout d'un coup, le pressuriseur s'est mis à vibrer. Bon, normalement, un pressuriseur, c'est un énorme truc. Tu vois. Alors pourquoi, comment, je ne sais pas où ça en est, mais enfin, ça a retardé le Finlandais, probablement le Français, peut-être qu'il va vibrer à son tour. Chez le Finlandais, il y a eu des histoires de vannes, d'ailleurs, qui sont bien expliquées dans le journal de l'énergie. On est persuadé, les Finlandais ont dit, mais c'est les mêmes sur le PA français. Côté français, on n'a pas eu tellement d'explications, sinon oui, oui, quand même, peut-être, oui, on regarde. Enfin bon, cette histoire est lamentable et à tous les points de vue. Tu vois, au point de vue d'abord de la technique, bon, on devrait savoir faire des soudures, savoir faire du béton, savoir faire. Enfin, la liste est sans fin. Deuxièmement, de la conception, les fautes de conception, ce qui n'est pas normal quand même. Au bout de 50 ans de travaux sur les réacteurs, le contrôle de commande, etc. Troisièmement, des fautes d'organisation et de surveillance. L'EDF, ce chantier n'a été mené par personne. Personne n'a contrôlé la qualité des intervenants, si les soudeurs étaient bons ou pas bons. Les mecs, un jour, ils ont fait une inspection. Le type qui soudait, il ne savait pas souder, quoi. Pratiquement. Quoi. Chaque fois qu'il faisait un truc, ce n'était pas bon. Donc il fallait refaire les soudeurs, etc. Et puis, il y a un problème politique.
Arrêtons-nous là pour aujourd'hui, car cela fait déjà beaucoup de sujets dans cet épisode. Nous aborderons l'aspect politique et d'autres choses encore sur ce fiasco de l'EPR dans le prochain épisode du podcast Un déjeuner chez Bernard.